Dans le cadre de l'exposition Grain de Simon Boudvin, l'artiste invite Fabienne Loret, syndicaliste, ex-employée chez Renault Flin et autrice de L'Envers de Flin, une féministe révolutionnaire à l'atelier, aux éditions Sileps, Paris 2018. Dans cet entretien, il est question d'établis ouvrières, des conditions particulières liées au travail à la chaîne et de l'engagement dans les luttes locales et de l'usine à travers le témoignage à la première personne de Fabienne Loret. Celle-ci évoque également les luttes des ouvriers étrangers issus des recrutements dits cosmopolites de Renault en Afrique du Nord notamment, ainsi que les difficultés spécifiques des ouvrières, cibles d'harcèlement sexuel et de sexisme. Dans cet entretien, il sera également question de perruques et bien sûr de Twingo.
Pour commencer et situer rapidement, Plein, c'est une commune à l'ouest des Mureaux, avant Mantes-la-Jolie, dans une conurbation qui lie Aubergenville, Elisabethville, donc sur la Seine, au nord-ouest de Paris. Et c'est une usine qui nappe de toiture, dessinée par, en 52 par Bernard Serfus, qu'on connaît pour avoir dessiné le CNIT, l'UNESCO avec Marcel Breuer, entre autres, mais aussi des grands ensembles à Nancy et à Clichy. Un vaste complexe industriel de 230 hectares entre la Seine et les voies ferrées pour acheminer les matériaux et sortir les voitures. Donc Flin, dans l'imaginaire collectif, c'est l'archétype de l'usine aux dimensions colossales, c'est le fleuron d'une époque de l'industrie française, et c'est de ce sens d'où sortait ou d'où sortent encore un peu ces voitures que l'on croise dans tout le pays. C'est aussi un établissement qui a compté plus de 20 000 ouvriers et ouvrières. Et c'est une ville avec ses populations, ses classes, ses lois, ses injustices, ses fiertés.
Ses luttes.
Alors justement, Fabienne, quel est le Flin que tu découvres quand tu t'y établis en 72? Et puis, il va falloir que tu nous expliques qu'est-ce qu'une établie ouvrière.
Qu'est-ce qui m'a amenée déjà à aller dans cette usine? Je ne suis pas allée toute seule déjà. C'était un établissement groupé, militante groupée, après les années 68. Donc moi, je suis née en 1950, donc en 68, j'avais à peine 18 ans. Et j'étais à Paris, donc j'ai participé au mouvement de 68, j'étais lycéenne. Et bon, il y a eu la grève dans mon lycée, tout ça. Et puis après, j'étais au quartier latin avec mon compagnon. On a vécu, voilà, toutes les grandes manifs, surtout dans la région parisienne. Et puis, ça a duré deux bons mois, hein, la grève de 68. 10 millions de grévistes qui ont quand même arrêté la France. C'est fait un grand événement historique. Et il y a eu quelques résultats, mais bon. Et puis, ça s'est terminé par... la solution électorale, voilà, les élections. Évidemment, moi, j'étais devenue en 68, donc j'ai rencontré les organisations révolutionnaires dans les manifestations, les meetings qu'il y avait à la Sorbonne, et j'ai, avec mon compagnon, on a adhéré au JCR, les Jeunesses communistes révolutionnaires, qui était l'organisation de jeunesse de la Ligue communiste, qui est aujourd'hui qui a été la Ligue communiste révolutionnaire, et le NPA, l'ancêtre du nouveau parti anticapitaliste. Donc après, on a deux ans, j'ai repris mes études, j'ai pas fait grand-chose parce que je faisais que militer à la fac, et il y a eu une scission dans la Ligue communiste, et avec un groupe qui s'appelait Révolution, qui s'est transformé par l'Organisation communiste des travailleurs, et qui disait que mai 68, c'était l'analyse de l'époque, c'était une répétition générale et qu'il fallait que les révolutionnaires n'étaient pas dans les entreprises, c'était beaucoup des étudiants, des intellectuels, qui n'étaient pas ouvriers, et que il fallait aller dans les entreprises. Alors, donc c'était aller s'établir en entreprise. Il y avait déjà d'autres courants qui n'étaient pas, la Ligue communiste était plutôt d'un courant dit trotskiste, mais les maoïstes, qui étaient un autre courant révolutionnaire, étaient déjà allés s'établir en usine, un petit peu avant, en 68. Mais ils faisaient des petites missions dans des petites boîtes. Enfin, voilà. Et donc, nous, on s'est dit, il faut s'établir dans cette région. Et comme Renault Flin a quand même fait la une des journaux, parce qu'il y a eu quelque chose d'important à Renault Flin, il y a eu des grèves dans les usines Renault, évidemment, qui ont bloqué la production automobile. Et à Flin, c'était assez déterminé, très, très combatif. Les syndicats étaient moins implantés à Flin qu'à Billancourt, par exemple. Il y avait une mainmise moins forte des syndicats et c'était plus libre. Bon, ils ont occupé l'usine Et il y a eu les CRS qu'on voulait les virer, etc. Et il y a eu un jour, ça devait être le 6 ou 7 juin, il y a eu des bagarres autour de Flins et d'Elisabethville, parce qu'en fait, la ville, elle s'appelle Flins, mais très peu du territoire de l'usine est sur Flins. Il y a un petit bout, mais la majorité est sur la commune d'Aubergenville, qui est à côté de Flins. Il y avait des jeunes étudiants qui donc les ouvriers ont appelé les étudiants qui se réunissaient dans les à la Sorbonne et tout ça, et il y a plein d'étudiants et de jeunes lycéens qui sont venus, et il y a eu des bagarres autour de l'usine qui était en pleine campagne hein, et dans les champs et tout ça, et c'était pas loin de Meulan, pas loin de la Seine, et il y a un jeune lycéen, Gilles Totin, qui a été poursuivi par les CRS et qui a couru et tombé dans la Seine, et il est mort, noyé. Alors ce qu'on dit, c'est que les CRS ne l'ont pas été le chercher, donc ils l'ont laissé se noyer, de fait. Il avait 17 ans, demi, il avait exactement mon âge, donc ça a fait un électrochoc, quand même, la mort de Gilles Totin. Il y a eu d'autres morts, hein, 68 ouvriers, il y a eu 3 autres ouvriers, notamment à Sochaux, donc il y a eu des endroits où c'était assez violent. Et donc on se disait que mai 68 était une répétition générale, et que si ça n'avait pas marché, c'est parce qu'il n'y avait pas de courant révolutionnaire assez implanté dans les entreprises. Donc il fallait y aller. Donc avec mon organisation, on était une partie à se dire, faut aller à Renault-Flins parce que c'est là où ce sera peut-être plus facile, parce qu'il n'y a pas une implantation des gros syndicats comme la CGT ou la CFDT qui ont la main mise et que voilà, et on pourra peut-être faire plus de choses. Et l'idée, c'était pas de s'établir comme les Mao uniquement dans l'entreprise, mais dans une région. C'était s'établir dans la vie. La vie, c'est pas seulement le travail, c'est aussi les logements, c'est aussi les loisirs, c'est tout ce qu'on fait. Donc on s'est établi entre Mantes et les Mureaux. On est parti à une vingtaine. Donc il y avait des gens qui s'établissaient dans les entreprises, pas qu'à Renault-Flins. Il y a eu d'autres usines parce que c'était une vallée assez industrialisée hein, entre Mantes et les Mureaux. Donc il y a d'autres personnes qui se sont établies en usine. Peut-être, je sais pas, on était peut-être une petite dizaine qui se sont établies dans les usines. Et puis d'autres qui se sont établies dans d'autres métiers. Il y avait des profs, des éducateurs, des employés, des médecins, des voilà. Donc on était une bonne vingtaine à s'établir sur cette vallée. Voilà, à changer de vie, quoi. Comme des gens qui disent, voilà, on a marre de la ville, on va à la campagne. Ben, nous, on a fait l'inverse.
Toi, tu y arrives en 72?
On arrivait un peu avant, 71. Parce qu'avant d'arriver à Flins, il fallait se faire un passé ouvrier, donc il fallait aller travailler dans d'autres petites usines. Donc, j'ai travaillé dans une usine à Mantes-la-Ville, une usine de biscottes, Gringoire, avec le petit lapin, là. Je suis resté, je sais pas, 3-4 mois. Et puis après, j'ai eu une autre proposition au profil, au Mureaux. Et puis, j'étais embauchée à Renault-Flins. Et j'étais embauchée dans le seul atelier où il y avait un maximum de femmes, c'est-à-dire la couture des sièges, les housses de sièges, la couture des housses de sièges de voiture. Donc, et très vite, comme j'étais jeune, on était jeune, je me sentais, voilà, dans mon élément. Je me sentais ouvrière, quoi. Le mot établi est vite parti.
Mais les premières grèves et les premières luttes sont vite arrivées. Alors quelle a été la
alors ce qui s'est passé
premier premier engagement
Ce qu'on a découvert surtout, c'est que le Flins de 72 n'était plus le même Flins que celui de 68. 68, il y avait 10 000 salariés qui avaient fait grève, certes, et il y avait après les accords de Grenelle qui ont augmenté le pouvoir d'achat de façon importante, la population a pu voilà, améliorer sa situation, c'est-à-dire les gens avaient des meilleurs logements, avaient des salles de bain, etc., et achetaient des voitures plus. Donc il y a eu une demande de voitures plus importante. Et donc Renault a doublé les effectifs. Et pour doubler les effectifs, ils ont passé les gens en 2-8. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas normal, ils n'avaient pas un seul horaire de 7h du matin à 5h du soir. Mais il y avait des gens qui travaillaient le matin, une équipe le matin, de 5h30, à 1h, et en gros, hein, et une autre équipe de 1h à alterner, hein, les équipes. On avait une semaine du matin, une semaine du soir, jusqu'à 23h au départ. Après, ça a changé. Donc, mais il fallait trouver de la manœuvre. Trouver 10 000 ouvriers de plus, c'était beaucoup quand même. Donc, il y a eu une montée en puissance du nombre d'embauchés. En 73, déjà, il y avait presque 18 000 ou 20 000 personnes. Enfin, ouais, ça a doublé. L'usine a monté jusqu'à 22 000 personnes. Donc, ils pouvaient pas embaucher que des gens autour. Donc, ils ont été chercher des ouvriers à l'étranger. Ça a fait doucement rigoler quand on entend tout ce qui se dit sur les étrangers aujourd'hui. Voilà. Donc, ils ont été chercher. Alors, ils ont cherché quand même des ouvriers qui étaient déjà étrangers en France, notamment beaucoup de Marocains, dans les mines du nord de la France. Et les mines commençaient à s'écrouler, les mines de charbon. Il y en a qui ont été embauchés. Et puis, ils ont été en chercher directement au pays, au Maghreb, surtout marocains, tunisiens, aussi algériens. Et puis après, il y a eu une vague pas très longtemps, oui, assez vite, en Afrique. Surtout des Maliens, Sénégalais. Voilà. Et il y a eu jusqu'à 50 nationalités. Donc, c'était plus du tout la même ambiance dans l'usine. C'était une autre usine, en fait. Et ces ouvriers n'avaient jamais fait grève. La direction de Renault pensait qu'en allant chercher des ouvriers qui n'avaient pas été très politisés, syndiqués, comme les Algériens de Billancourt, en allant chercher des ouvriers dans les campagnes du Maroc ou de l'Afrique, ben, ils seraient tranquilles, voilà, ils parlaient pas français, ils étaient pas alphabétisés, etc. Ils disaient, on va être tranquilles. Ça a été l'effet complètement inverse. Ils étaient encore plus révoltés ils venaient de la campagne, ils travaillaient à la chaîne, donc c'était très dur. Et il y a eu, les premières grèves de ces ouvriers, en chaîne de montage en avril, 73.
Ça a été ta première grève?
Ouais, c'était ma première grève.
Tu voulais nous en lire un extrait, je crois.
Les clameurs approchent. Ils arrivent. On est au mois d'avril 1973. À peine un an que je suis là. Tout le monde en parle à l'atelier de la couture. C'est la grève aux presses de Flins. Quelque temps auparavant, ceux des presses de Billancourt avaient gagné quelque chose pour leur évolution dans la grille de classification, pour avoir le P1 pour tous. Alors, il y a une petite note. La qualification P1 maison, appelée notamment P1, est de fait le maximum que pouvaient obtenir les OS, ouvriers spécialisés, on disait à l'époque. Ça couvait depuis un moment, ras-le-bol d'être OS à vie. Dans ces moments-là, les tracts sont lus plus attentivement que d'habitude. On sait qu'il y a d'autres revendications à Flins. Augmentation de salaire uniforme pour tous, ralentissement des cadences, amélioration des horaires, égalité des droits entre Français et immigrés, le respect finalement. Depuis plusieurs jours, la grève s'est étendue sur les chaînes de la sellerie, juste à l'étage du dessous de mon atelier. Du deuxième étage de la couture, on entend les cris du défilé au premier étage. Va-t-il monter chercher les mécaniciennes? À la couture, que se passera-t-il? Les femmes n'ont pas l'habitude de faire grève. La dernière fois doit dater de mai 68. Je sais, nous savons toutes, que le défilé des grévistes va forcément arriver. On en avait discuté avec les copains de mon organisation. Il fallait que j'assure. J'avais donc préparé le terrain en parlant avec quelques ouvrières déjà repérées comme moins dociles. Celles qui affirmaient que les grévistes avaient bien raison et qu'il fallait les rejoindre s'ils venaient nous chercher. Il suffisait d'une poignée qui entraîne les autres. Promis, on ne se dégonflerait pas. Parce que nous aussi, on veut le P1. On en a marre du rendement et des horaires. Et pour moi, ce serait ma première grève. Comme toutes les premières fois importantes de la vie, je sais que ça va compter, que rien ne sera plus comme avant. Les clameurs se rapprochent, les chefs, les règleuses se plantent bien visibles au début des allées. Je suis devant ma machine à coudre, fébrile. Ça y est, ils montent l'escalier du milieu face à la peinture. Ils sont nombreux dans l'allée devant les dizaines de machines à coudre, véritable rempart pour les ouvrières. Le défilé s'avance lentement. Il s'arrête devant mon secteur de la préparation. Les ouvriers en gris de travail, déterminés et bienveillants, avec leur ras-le-bol d'être OS, font face aux mécaniciennes assises, silencieuses. Les appellent, nous interpellent. « Allez, venez, sortez, avec nous, avec nous !» Et moi, du haut de mes 22 ans, je regarde intensément les copines autour, devant, derrière, celles qui avaient promis de sortir. Et je ne vois que tête baissée, regard gêné, visage buté et fermé, sans parler de celles qui sont parties se cacher aux toilettes. Je les interroge. « Alors tu viens, on y va !» Le mutisme pour toute réponse. Que faire? Il n'y a pas de temps à perdre. Je me décide. Le cœur battant à tout rompre, le rouge aux joues, la peur au ventre, je me lève de mon siège. Sors dans l'allée et rejoins les grévistes. Ça y est, je l'ai fait. J'ai osé. Soulagement, les larmes au bord des paupières. Acclamations, applaudissements. Congratulations même de délégués dont la déléguée CGT de la couture. Mémène, un peu blasée et sachant combien il est difficile de faire ce pas à la couture. Moment inoubliable pour moi. Je crois bien qu'il y avait du soleil qui perçait les vitres ce jour-là. Les grévistes me tendent le micro au mégaphone. C'est la première fois que je parle haut et fort à mes collègues, la voix un peu tremblante. Sous l'œil des approbateurs des chefs et le regard étonné des ouvrières, je les incite à nous rejoindre, car cette grève nous concerne toutes. Elles le savent bien, mais aucune ouvrière ne se lève, ni même au montage pas loin. Je n'insiste pas plus, c'est râpé. Je reste dans le défilé des grévistes, déçue d'être la seule mécanicienne à participer à ce mouvement. Je me sens abandonnée par mes amis de travail, le poids insidieux de l'autorité patronale à gagner. Heureusement, la chaleur humaine des grévistes, les slogans presque chantés, la joie communicative de cette libération particulière qu'apporte la grève, m'emporte avec le défilé qui poursuit sa route dans les autres bâtiments avec plus de succès qu'en couture pour augmenter ses troupes. À mon retour à l'atelier le lendemain, c'est un peu la douche froide. les regards fuyants, les sourires et les bougeons gênés, mi-admiratifs, mi-culpabilisés. Je ne leur en veux même pas. Il me faudra tout de même encaisser les rumeurs dévalorisantes et très blessantes de certaines. Quasi pestiférée, je suis celle qui fricote avec les étrangers. J'assume et j'assumerai toujours. Les jours suivants, je retourne dans le défilé, je choisis mon camp définitivement. Merci.
C'est un passage très émouvant.
Ouais, je...
c'est un passage très émouvant. On y est. Et c'est le début d'un engagement au-delà de... localement, à Flins, mais à l'usine et auprès d'un syndicat.
Ouais. Et ben, tout de suite, j'ai été repérée, bien sûr. Alors, nous, on voulait rentrer à la CFDT. On avait demandé à la CFDT, qui était une CFDT assez, à l'époque, assez à gauche. Enfin, elle était dans une société oppositionnelle à la direction dans les années 70, qui était assez autogestionnaire, et assez libre. Féministe, même. Et puis, voilà. Bon, bref. On avait demandé, ils avaient pas voulu, parce qu'ils savaient qui on était. On a dit non, ils voulaient pas, même s'ils étaient un peu à gauche, ils voulaient pas qu'on utilise le syndicat pour construire notre organisation révolutionnaire. Et puis donc, on a...
Est-ce que c'était affiché? Vous étiez membre du groupe Révolution, et le groupe Révolution existait de manière affichée.
On voulait pas se cacher. Mais on avait dit qu'on n'utiliserait pas nos heures pour... Donc on les rencontre, ils disent ok, ils avaient besoin de... Ça faisait des années qu'ils avaient pas eu de délégué à la couture. Il y avait que la déléguée, déléguée assez costaud, de la CGT, qui était aussi partie communiste, donc très déterminée. Et la CGT est venue me voir aussi, mais on avait déjà dit oui à la CFDT. Mais je regrette pas, parce que c'était bien, finalement, qu'il y ait deux syndicats, parce que pour construire une unité syndicale, ça nous semblait intéressant, même si on était minoritaire. Et puis, on est rentré à quatre à l'usine. Donc, on était trois à être rentrés à la CFDT et un autre copain à la CGT. Jacques avait donc mon compagnon de l'époque, Nicolas, qui a écrit aussi un livre sur Flins.
Mais alors il faudrait qu'on fasse peut-être tout le tour de la bibliographie, mais il y a toute une bibliographie des établis et des ouvriers, des ouvrières.
Il a écrit un livre en 80...
Donc il y a eu le Flins sans fin de Nicolas Dubos chez Maspero.
Il a écrit en 81.
Et avant ça, la grève à Flins par Talbot, c'est ça?
Oui.
Jean-Philippe Talbot, qui relate les événements de 68 particulièrement. Aussi chez Maspero.
Oui.
Et d'ailleurs, vous aviez un lien avec cette maison d'édition, non?
Je sais pas. Non. Oui, Maspero, c'était la librairie, l'éditeur de l'extrême gauche.
Et plus actuel, il y a De Cendres et De Braise, Voix et histoire d'une banlieue populaire de Manon Haute, qui a un film et un livre, où on retrouve de citer Fabienne, Jean-Philippe Talbot, Jama, et voilà.
Mais c'est plus sur la ville des Mureaux, c'est plus le rapport entre la ville et l'usine. En fait, c'est ce qui reste de l'usine aujourd'hui.
Peut-être que je lis, pour poursuivre un peu autour de cette bibliographie, un extrait de Jean-Philippe Talbot, un extrait de La grève à Flins de 68. On commence à 8h-25, on s'arrête à 9h15, et on reprend à 9h25, juste 10 minutes pour le casse-croûte. À la mi-journée, on s'arrête à 12h-20, on reprend à 1h-25. L'après-midi, on a 3h15. À 3h25, on s'arrête le soir à 6h-5. Les chronos passent sur les chaînes pour vérifier les cadences. Et si vous avez 5 minutes pour faire une pièce ou un câblage et que vous les faites en 4 minutes et demie, en continuant comme cela toute la journée, le soir et à la fin de la semaine, vous avez des tas de minutes d'avance. Le chef, dans son coin, bien sûr, il ne dit rien. Mais après, souvent, vous êtes changé de place et vous vous retrouvez avec un câblage de plus à faire dans le même temps qu'avant. Souvent, les jeunes débutent, foncent, en mettent un coup et croient bien faire. Ils ne comprennent pas que c'est les normes. Ils sont pleins d'allants, mais ça ne veut pas dire qu'ils pourraient continuer à ce train-là longtemps. Seulement, on profite de leur inexpérience ou de leur bonne volonté pour essayer de leur en faire faire plus. Parce que c'est ma question, un peu, quelles sont les luttes à suivre? Là, on entend, on est en 68, avant le passage des 2-8. On sent l'obsession des chronos. On peut imaginer que c'est la contrainte du rythme de la chaîne qui donne le rythme des vies et de tout ce travail. Mais quelles sont les revendications les plus courantes et les plus constantes?
La question des cadences, voilà, des cadences ou du temps d'opération, du temps d'opération. Nous, à la couture, on avait un nombre de minutes à faire. Voilà, on avait le nombre de minutes et on devait faire tant de pièces. Au départ, le travail était assez parcellisé. Moi, j'étais à la préparation, les premières années, j'étais à la préparation, préparer les petites pièces qui, après, allaient être assemblées pour faire l'assise ou le dossier avant ou arrière, etc. C'était au montage. Après, j'étais au montage. Et c'est vrai que les opérations, dans un poste fixe, le temps, on pouvait, nous, le gérer. Et justement, par rapport aux gars de chaîne, peut-être ça se voyait moins quand on gagnait du temps. Parce qu'on a des trucs que n'ont pas les chronos. Sur gagner du temps, sur une opération pour coudre un truc... Mais ils arrivaient toujours à bout d'un moment, ils arrivaient à trouver, mais on gagnait du temps, et alors on le répartissait des fois, on pouvait gagner une heure, sur la journée, même plus. Les filles très rapides pouvaient gagner une heure. Alors on le répartissait sur la nuit, on allait au café, on allait aux toilettes, etc. Mais en chaîne, c'est pas possible. Donc c'est vrai que il vaut mieux couler les cadences, c'est-à-dire laisser aller, que plutôt avancer. Avancer, ça se voit tout de suite. Et donc le temps qu'on gagne, les chronos, ils le voient. Parce que l'objectif dans une entreprise de fabrication, c'est le temps d'opération, c'est gagner la productivité, c'est ce qu'ils appellent la productivité. C'est augmenter la productivité, donc faire les choses en le moins de temps possible. Et les gens sont payés de toute façon au même salaire, ils ont les mêmes conditions d'horaire et de salaire. Donc c'est une bataille, la productivité. Et la question des cadences a toujours été, et du contrôle des cadences, voilà, déjà qu'elles soient affichées. Nous, il a fallu se battre pour qu'on nous affiche le temps sur les chaînes, et ça a été dur à obtenir. Et à la couture, c'était pareil.
On aurait pu imaginer l'inverse.
Oui.
Mais le fait que ce soit affiché, c'était une sécurité, voilà, pour vous.
Mais une sécurité pour savoir, en fait, on maîtrise rien. En fait, quand on est à la chaîne, on dépend de la chaîne, quoi, de la vitesse de la chaîne.
Donc les temps sont négociés?
Pas vraiment. Ces gens-là, les chronométreurs et les gens qui sont dans les bureaux d'études, ils font un temps sur une opération pour une minute, une heure, mais sur 7 heures, 8 heures. C'est pas la même chose. On travaille pas à la même cadence tout le temps. Donc, il faut une moyenne. Et leur moyenne, elle est toujours plus haute. Et elle est toujours sur la personne la plus vive qui va faire le travail. Pas une moyenne. Et il y a des personnes qui arrivaient pas. Nous, on avait 360 minutes à faire, je crois. Il y avait des filles qui arrivaient pas à la fin, nous, à la couture. Et il y avait des filles qui pouvaient gagner une heure ou deux. Après, c'est une question des gens qui s'organisent. C'est une question de... Il y a des gens, ils arrivent pas à s'organiser dans le travail. Mais c'est courant partout. La chaîne, c'est ce qu'il y a de plus injuste. Parce que on peut pas transiger avec la chaîne, c'est pas possible, c'est très difficile. Ou si ça se voit trop, eh ben finalement c'est ce qui arrive là, dans ce qu'il raconte Jean-Philippe Talbot. Alors c'était très important parce que c'était dire on veut pas être des robots, on veut pas être OS à vie, on veut pas rester tout le temps comme ça. Et donc ça se monnaie comment? Puisque c'est difficile de remettre en cause l'organisation du travail, faut un contrôle. Eh ben ça se monnaie par le salaire. On veut être augmenté. Et on veut plus être au plus bas de l'échelle des salaires sur la chaîne. On veut avoir une formation, faire y compris peut-être de la polyvalence, mais avoir ce qu'on appelle le P1. Le P1, c'est professionnel, P1, professionnel, maison, quoi. Donc, au début, quand on rentre, il y avait, je sais pas mal d'indices d'OS. Maintenant, on dit plus OS, mais après, on a dit agent de production. Le système dominant économique transforme toujours les mots pour en faire quelque chose qui passe au niveau idéologique. Donc on n'est plus ouvrier spécialisé, mais on est agent de production, ou voilà, etc. Donc c'est plus noble, c'est moins, ça montre moins, l'exploitation est peut-être un peu plus cachée.
Ça cherche à combler un manque de reconnaissance.
Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est le fait de dire, on veut un peu contrôler ce qu'on fait, et aussi on veut être respecté, pas être des machines. Et en fait, c'est le combat pour la dignité. Toutes les grèves qui ont lieu, c'est un combat pour la dignité. Sur le fond, c'est ça. Et la dignité, ça passe effectivement par les conditions de travail et le salaire. Les horaires aussi. Parce qu'il y a eu des grèves... Il y a eu des grèves dont on ne m'a pas beaucoup parlé. Mais je sais pas... c'était prévu qu'on en parle, je sais pas.
On avait prévu de parler, mais tu Tu en as déjà un petit peu parlé, mais c'est important, je pense, surtout en ce moment, qu'on revienne dessus. C'est à quel point l'usine est cosmopolite. Donc on y trouve des betteraviers et des betteravières de la Sarthe et de la Mayenne, des nombreuses populations dont leur recrutement a été vraiment ciblé. Quand l'usine bat son plein, quand elle atteint ses 20 000 travailleurs, on compte 8 000 immigrés sur les 22 000 salariés, dont 4 400 du Maroc, 680 d'Algérie, 150 de Tunisie, 1 700 du Portugal, 1 millier du Sénégal et du Mali, 350 de Yougoslavie, 350 aussi d'Italie et d'Espagne. Mais ce que j'ai appris en te lisant, c'est que l'ONI, l'Office National de l'Immigration, menait une politique de recrutement vraiment ciblée au Maroc. Et peut-être que tu en as déjà touché un mot, mais je voulais lire ce passage-là. Pardon, le pays d'origine des pays n'est pas anodin. La régie de Renault semble avoir réfléchi pour le doublement de ses effectifs en 1969. Surtout, ne pas réitérer l'erreur de Bilancourt. Avec une forte proportion d'Algériens éduqués, scolarisés et politisés, et donc potentiellement meneurs de lutte. Peine perdue, à Flins aussi. D'où qu'ils viennent, les travailleurs immigrés se révoltent contre l'exploitation, pour la dignité, ils font grève, se syndiquent, deviennent délégués. La majorité des travailleurs immigrés de Flins sont les 4400 Marocains, venus pour la plupart directement du sud du Maroc, berbères, dénommés chleux, d'origine paysanne et peu alphabétisés, parlant berbère et moins l'arabe, à l'exception de quelques-uns venus des grandes villes comme Rabat ou Casablanca. Jama, marocain, né au sud de Tizni, arrivé en 69, confirme qu'à la fin des années 60, l'État français, par le biais de l'ONI, l'Office national d'immigration, est venu sur place au Maroc les chercher pour travailler en France. C'est bien, je pense, actuellement de rappeler quelles ont été les différentes politiques migratoires.
Ben oui, quand il y en a qui disent que ouais, faut plus d'étrangers en France, mais oui, mais ils ont quand même participé à plein de choses en France, et puis on a été les chercher quand même. Donc, et alors sur cette histoire-là, par rapport à la grève de 73, c'était la première grève des ouvriers en chaîne dont la majorité était étrangers. Après la grève qui a été un échec, un grand échec, il y a eu des licenciements, on n'a pas gagné grand-chose. Renault était très très dur au niveau des grèves. Il y a eu des affrontements avec la maîtrise, etc. Après, il y a eu les élections. Et donc, il y a effectivement des ouvriers étrangers qui sont sortis comme leaders un peu. Et donc, les syndicats ont dit qu'il faut qu'on les mette en tête de liste aux élections, que ce soit la CGT et la CFDT à l'époque. Et il y avait dans l'usine de Flins un courant, notamment de la maîtrise et des cadres, et quelques ouvriers français, qui était dans une espèce d'officine, pas comme la CSL à Poissy, à Talbot ou Citroën, je sais plus, et qui a agité les gens et qui a donné un mot d'ordre de rayure des noms étrangers sur les listes électorales au premier collège. Et il suffisait très peu de rayures, Donc, tous les premiers candidats avec un nom étranger, même portugais, tous les noms qui n'étaient pas un nom français, ils étaient rayés. Donc du coup, on avait, et la CGT et la CFDT n'avaient plus de candidats, d'élus étrangers. Se remontaient tous les Français qui étaient en bas et qui ne voulaient pas forcément être délégués d'ailleurs, enfin, certains. Donc ça a été une grande bataille et c'était plus ou moins... la direction n'a pas beaucoup agi là-dessus. Donc il y a eu des procès très très longtemps et ça a mis plusieurs années pour qu'il y ait... quelque chose de législatif qui disent que en dessous d'un certain pourcentage, je crois que c'était 5%, eh bien on ne pouvait pas rayer. Les rayures n'avaient pas d'effet. Ça a duré plusieurs années. Donc ça a été un gros coup dur, quoi. C'était quand même violent.
Surtout qu'on peut imaginer donc cette usine très cosmopolite. Imaginez ce climat raciste autant du côté de la direction qui se retrouve même dans les syndicats. C'est en effet assez violent comme image.
Mais bon, il y a eu d'autres épisodes de racisme avérés. C'est pendant les grèves dans les années 82, un grand mouvement de grève dans toute l'automobile, dans la deuxième année du mandat de Mitterrand, dans toutes les usines automobiles. Il y a une vague j'en parle dans mon livre, toutes les usines automobiles ont été en grève, justement contre, parce que pour eux, c'était un espoir, ce gouvernement. Donc pour augmenter ses salaires, pour améliorer les conditions de travail, etc. Et il y a eu des affrontements encore là, des affrontements assez violents, notamment à Citroën et notamment à Poissy, avec une officine, là vraiment la CSL, et il y a eu des bagarres entre grévistes et des nervis de la CSL très 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 violents, et le gouvernement Mauroy n'a pas assumé du tout, puisqu'ils ont participé à une campagne de dénigrement des grévistes d'origine étrangère en parlant de qu'ils étaient manipulés par des intégristes, des chiites, etc. Alors que ils sont pas du tout chiites, les Marocains ici sont cyniques, donc c'est pas du tout, ils y connaissaient rien, mais ils ont participé à ce dénigrement en disant que c'était des grèves manipulées par la religion. Ça a commencé déjà dans les années sous le gouvernement Mitterrand, faut pas l'oublier. Et plusieurs ministres ont eu des, y compris le ministre du Travail a eu des, bon je veux pas détailler, mais des paroles à la radio et dans les journaux très très violentes par rapport à ça.
Tu voulais revenir sur une grève en particulier, je crois, la grève des Africains, qui était une grève très rapide.
Oui, alors en 75, il y a eu une grève, il y avait un gros problème pour les Africains, il y en a un peu plus qu'avant, parce que pour les vacances, pour retourner dans leur pays, ils n'y allaient pas tous les ans parce que ça coûtait cher, aller au Sénégal ou au fin fond de l'Afrique, ça coûtait cher. Et ils mettaient beaucoup de temps à y aller. Ils habitaient pas dans les grandes villes. Beaucoup habitaient dans des petits villages. Il fallait vraiment, c'était long le voyage. Donc, ça leur suffisait pas d'avoir juste leur mois de congé payé. Donc, ils demandaient 2 mois de congé sans solde en plus, sans solde. Donc, il y a eu une grève pour avoir des congés sans solde. Donc, ils sont venus voir les syndicats qui ont dit qu'ils voulaient faire grève sur cette question-là. Si les Africains s'arrêtaient, ça arrêtait beaucoup de choses dans l'usine. Donc la CFDT a dit OK, mais on voudrait élargir un peu. Pas seulement, on veut que les gens aient le droit de demander des congés sans solde, qu'ils soient d'origine étrangère ou même français, parce qu'il y avait, c'était aussi une revendication de certains jeunes qui voulaient aussi avoir des vacances plus longues. Ils étaient habitués à avoir 2 mois de vacances en sortant de l'école, donc ils aimaient, voilà. Donc c'était un peu ça, pour la liberté d'avoir des congés sans solde. La CGT a refusé, parce qu'ils trouvaient que c'était trop, voilà, que c'était, ça donnait pas une bonne image, ça, on favorisait une catégorie étrangère par rapport aux Français. Ils ont eu peur qu'on les, bon. Et puis, on a fait un travail, on a fait des pétitions, et puis on a appelé à la grève, et on n'était pas très rassurés à la CFDT. On disait, est-ce que ça va marcher ou pas? Et puis, ça marchait du feu d'enfer. Ils sont tous sortis, et c'était une grève, mais vraiment extrêmement joyeuse, et ça a duré. C'était une grève qui a duré, je sais pas, peut-être une matinée, 2-3 heures. La direction, elle a eu peur, elle a cédé tout de suite. Elle a cédé tout de suite. Et donc, il y a eu des négociations. Bon, après, il fallait négocier. Oui, oui, vous aurez vos congés sans solde. Après, il y a eu des, voilà, ils reviennent. Bon, les patrons reviennent toujours en arrière sur ce qu'ils ont cédé, c'est évident. Mais ils ont cédé quand même. Donc, c'était une victoire très importante sur. Là, c'était aussi une grève pour la dignité, reconnaître les conditions de vie des gens et de leur vie. L'usine, c'est aussi la vie qu'on a retrouvé sa famille, qu'on n'a pas vue depuis 1 an ou 2. Il faut du temps. Si on met la moitié du temps des vacances en transport, si on met 1 semaine aller, 1 semaine retour, il reste plus que 15 jours sur place. Donc c'est, voilà, voir toute la famille, il faut rapporter des choses et tout ça, donc c'est... Non, c'était, moi je trouve que c'était, c'est une grève dont on n'a pas parlé dans les journaux, mais pour les petites grèves, des fois, elles sont très importantes. On a fait une autre grève aussi pour le confort. On travaillait, quand on était en équipe du matin, on travaillait le samedi matin. Ça faisait 6 jours d'affilée. C'était dur le samedi. Surtout pour les femmes. Les femmes, elles ont toujours la double journée de travail. Donc le week-end et le samedi, ben, si à la matinée, si on sort à midi et demi, midi, donc on avait parlé de ça au syndicat, et en fait à l'époque dans les années 74, la grève du samedi matin. Donc les révolutionnaires, il y avait donc une partie qui était plutôt à la CFDT, et puis il y avait lutte ouvrière, des copains de lutte ouvrière qui étaient à la CGT. Donc c'est parti d'un atelier où il y avait un gars de lutte ouvrière très chouette, un atelier de le CKD, un atelier où ils emballaient des pièces pour les autres usines et à l'étranger. Ils ont lancé ça et on s'est mis d'accord pour lancer la grève. Et les syndicats, ils ont dit, débrouillez-vous. Parce que les syndicats étaient dirigés plutôt par des ouvriers professionnels, qui eux étaient en normal, qui n'étaient pas en équipe, en 2-8. Ça concernait beaucoup les ducs. Donc les gens qui travaillent en semaine, ils n'ont pas le samedi. Donc on a fait un gros travail d'information avec des affiches, des autocollants, etc. Pendant plusieurs semaines, on a fait la grève du samedi. C'est-à-dire qu'on venait le samedi, mais on faisait grève. Et on défilait tout le samedi matin dans toute l'usine. C'était génial. On venait pour faire la grève du samedi, on voulait notre samedi. Donc c'était une grève, voilà, pour le bien-être de la vie, quoi. C'est pour avoir une vie correcte et on a gagné quelques mois après. La direction a fait un truc sur une réduction d'horaire qui a permis que, en rajoutant quelques minutes sur les autres journées, on travaille pas le samedi. Mais le samedi, maintenant, c'est un jour habituel. C'est revenu dans les années 2000. Hein. Ils ont réintroduit le samedi au volontariat, puis maintenant, c'est obligatoire de travailler le samedi. Comme quoi, les acquis, ils ne sont jamais gagnés définitivement.
On a entendu tes luttes contre le racisme. On va aussi parler du machisme et du féminisme. Mais avant ça, je voulais m'arrêter sur un passage qui décrit l'ambiance et les couleurs de l'atelier de couture où tu travaillais. Un passage à propos des blouses. À l'atelier de couture de Siège, le travail ne semble pas si salissant. Pourtant, beaucoup d'ouvrières portent une blouse. Renault n'en fournit pas aux mécaniciennes de la couture, alors que les ouvriers de chaîne, ou en préparation, ainsi que les balayeurs, ont droit à un bleu de travail. C'est d'ailleurs souvent un gris, en grosse toile rêche, combinaison ou pantalon et veste rappelant le costume de bagnard. Un hasard? Plus tard, de couleur orange pour les caristes, peut-être afin de les voir arriver de loin sur les allées sur leur Fenwick. Les peintres, en cabine, eux, se protègent avec une combinaison blanche et un masque. Les contrôleurs en bout de chaîne, chargés de trouver les erreurs, se repèrent pendant les années 80 en blouse verte. Les étames, employés techniciens agents de maîtrise, arborent la classique blouse blanche. Symbolique des couleurs et des fonctions, le nom et l'atelier ou le secteur sont inscrits sur chaque vêtement, pas seulement pour repérage. Il est aussi plus facile de les récupérer après le lavage hebdomadaire par les sous-traitants. À noter que depuis le début des années 2000, tout le monde a un gris. Blouse ou pantalon et veste, traversés d'un trait jaune, couleur de Renault. Dans une sorte d'uniformisation artificielle de l'ouvrier de chaîne au directeur, et oui, en passant par le cariste et le cadre. Façon de montrer pour la direction qu'on est dans le même bateau, et surtout de nier, comme elle le peut, la lutte des classes. Même Carlos Ghosn porte le gris lorsqu'il vient en visite à Renault. La blouse de chaque mécanicienne semble un marqueur. Pour les plus âgés, ça ressemble à la blouse sévère des paysannes ou des femmes de ménage. Les plus jeunes arborent des tabliers de ménage ou de cuisine moins couvrants, sans manches, unis ou colorés, à fleurs, à motifs géométriques. Les plus audacieuses et coquettes, certaines considérées comme frimeuses ou pire, comme coureuses, n'en mettent pas du tout. Et si le refus de se conformer à la norme, de ne pas rentrer dans une certaine codification du travail. Nous avons enfin obtenu, après la grève de 1904... Tu m'excuses, j'ai sauté quelques passages. Mais... Celle où tu parles à la première personne, mais comme tu es là pour parler à la première personne. Nous avons obtenu, après la grève de 1980, que Renault nous fournisse des blouses que nous revendiquions depuis des années. On nous avait promis des modèles de différentes couleurs. Finalement, en 1983, ce furent deux blouses identiques par an, en coton épais bleu ciel et pas tressaillante. Pas de nom inscrit, car les ouvrières étaient chargées de les laver à la maison. Peut-être parce que c'est une tâche traditionnelle qui leur revient ou pour réduire le coût de l'entreprise. Certainement un peu des deux. Mais personne, même pas moi, n'a tilté sur ce traitement différent qui n'a pas été ressenti à l'époque comme discriminatoire. Au contraire, cette victoire pour une revendication légitime fut appréciée. Beaucoup l'ont portée par conviction, par fierté. Puis les blouses fantasy sont revenus petit à petit, coquetterie oblige. On perçoit toute l'ambiance Moi, j'ai un attachement particulier à comprendre par les objets. Avec les blouses, on voit déjà toutes les humeurs et différentes et toute une petite histoire qu'il y a eu là.
On peut partir justement sur la question du machisme, justement la blouse.
Oui.
Quand j'étais déléguée à l'époque, quand j'étais déléguée en 73, c'était encore l'époque des mini-jupes. Donc j'étais déléguée, puis j'allais dans les ateliers en mini-jupes, donc je me faisais siffler encore plus. Et quand on va dans une usine grande fabrication comme ça, quand une femme passe, qu'elle soit habillée n'importe comment, elle est sifflée. Donc c'est des grands sifflements. Et donc j'en ai eu marre, quoi. Voilà. Après, je mettais des pantalons. Et puis j'avais une blouse. Moi, je mettais pas les blouses avec les fleurs et tout ça. J'avais une blouse que ma mère m'avait faite, un peu justement paysanne, un peu, mais qui allait en dessous du genou, bien en dessous du genou. Donc je mettais cette blouse là pour me protéger, quoi. ça changeait pas grand-chose au fait, au sifflement, parce que c'est un rituel des hommes de siffler chaque femme qui passe, quelle que soit son allure physique, soit jeune, plus vieille, jolie ou pas jolie, voilà, elles sont sifflées. Et donc ça m'en vient à dire que voilà comment j'ai découvert le machisme dans l'usine. Déjà les sifflements déjà. L'atelier de la couture, je m'en suis rendu compte pas tout de suite, peut-être que quelques mois après. Il était dénommé par les hommes qu'on rencontrait du nom du parc à moules. Première fois que je l'ai entendu, je me suis dit merde, on est là, on est des moules censés être l'image du sexe féminin à vif, voilà, et on est un parc à moules quoi. On est à consommer. C'était terrible, je supportais pas ça. Il y avait des filles qui le remployaient un peu, mais pas tellement quand même, on n'était pas très fiers. Et quand il y avait aussi le fait que quand on passait sur les chaînes, non seulement on était sifflé, alors quand il y avait des hommes qui rentraient à l'atelier, assez peu hein, de la couture qui montait, parce que c'était un atelier un peu caché quand même au deuxième étage de la sellerie, ben on les sifflait en rigolant quoi. C'était un peu un juste retour des choses. On nous disait, ouais, ah t'es jolie toi, viens par ici un peu. Mais... Alors, je voulais raconter le machisme avec d'abord des petits trucs comme ça. Il y a eu aussi...
Ils sont allés vers des cas plus graves, de harcèlement.
Ouais. Ah oui, après, premier marqueur du machisme et surtout du poids du rôle des femmes qui est vraiment bien cadré, le patriarcat dans toute sa splendeur, c'est la fête des mères. Moi, depuis 68, je ne fête plus la fête des mères. C'est une fête réactionnaire, qui glorifie la femme uniquement en tant que mère, etc., pondeuse. Le premier trac, en 72, le premier trac que je vois de la CGT, je suis rentrée au mois de mai, le mois de mai, c'est le mois de la fête des mères. Le premier trac que je vois dans mon atelier, distribué à la porte de l'usine de la CGT, c'est sur la fête des mères, et surtout, je vois les filles revenir du CE, du comité d'établissement, avec un cadeau. Elles avaient toutes un tablier de cuisine avec une manique pour servir les plats. J'étais scotchée. Parce que quand même... et donc, avec mon organisation Révolution, on avait un trac qui s'appelait la clé à molette. Les ouvriers l'appelaient la clé à molette parce qu'on avait un copain qui avait... La clé à molette, c'est le symbole de la métallurgie. On avait un point avec une clé à molette qui était brandie comme ça. Donc, ils s'en foutaient du nom de l'organisation, ils disaient le tract de la clé à molette. Donc, on a fait un tract assez sanglant, je dois dire, contre la CGT, sur la façon dont ils traitaient les femmes. L'année d'après, donc c'est toujours un cadeau unique, elles n'avaient pas le choix, et ben elles ont eu une potiche, une grande potiche. C'est un peu symbolique aussi, mais après, ils ont un peu changé. Voilà. Bon, c'était un peu... Et puis, en 75, j'avais 25 ans, et j'avais jamais vu ça dans l'atelier, je crois. Puis c'était mon tour, mois de novembre, c'est la Sainte-Catherine, c'est Catherinette. Et dans les ateliers de couture, on fête la Catherinette. Donc, il y avait plusieurs Catherinettes, et moi, on m'avait fabriqué, bon, j'avais pas fait, c'était les gars de la coupe qui avaient fabriqué un très beau chapeau, vert et jaune, avec des, je sais pas quoi, une voiture, ouais, des voitures. Et ce jour-là, la Catherinette, le jour de la Catherinette, quand même, la femme, elle est célibataire, donc on doit se marier. Après, on devient une vieille fille. On est une vieille fille, si on est allé dans l'époque. Et donc, on a le droit de se balader avec les autres copines Catherinette dans toute l'usine. Et chaque fois qu'on rencontre un homme célibataire, il a le droit de nous embrasser. Sur les joues. Mais bon, on est une proie à prendre, quoi, en fait. Et avec ce chapeau ridicule. Donc, j'avais dit non. Je suis désolée, les filles, je ne peux pas. C'est pas possible, je suis contre cette fête qui est une fête super réactionnaire. Moi, j'ai 25 ans, je ne suis pas mariée, mais j'ai un compagnon et je ne suis plus vierge. Donc, je ne peux pas être Catherinette. Et ouais, elle me dit, t'as pas d'humour, c'est rigolo. Je dis, bah non, c'est pas rigolo, voilà. J'ai foutu le bon. Bah après, ils ont arrêté la Catherinette. c'est un peu perdu, ça se fait presque plus, quoi. Après, sur le machisme, oui, je m'en suis rendu compte. Tant délégué, j'ai pas défendu un gars de chaîne qui est venu me voir, je crois qu'il était marocain, en me disant j'ai un avertissement, faut que tu me défendes. Ah bon, qu'est-ce que t'as fait? Bah il y a la femme qui est à côté de moi là, elle est pas contente après moi, elle dit que je l'embête, c'est pas vrai. Je fais une enquête, je vais voir la femme, elle me dit non, je suis en colère, c'est pas possible, il mérite même plus qu'un son avertissement, il le mérite. Quand il est tout seul avec moi, il me touche et il sort son sexe devant moi. T'as raison, elle était en colère, elle pleurait presque. Je vais voir le gars, je suis désolée, je peux pas te défendre. C'est inadmissible ce que tu fais. Pour moi, Je peux pas défendre. T'as un avertissement, c'est déjà, voilà. Je peux rien faire. Après, quand je suis partie de l'atelier, parce que je suis partie de l'atelier, je parais que l'atelier, bon, devait disparaître, donc il commençait à décliner. J'en avais un peu marre dans les années 82 et je suis rentrée, j'ai eu la possibilité de rentrer au CE. Comme employé du CE, la CFDT avait gagné les élections. Là. Bon, je suis rentrée au CE, je me suis formée comme... j'étais embauchée à la discothèque, donc je me suis formée pour être discothécaire et bibliothécaire. Et dans les années 2000, on avait mis en place une commission femmes à la CFDT. La CGT avait aussi une commission femmes. Et on a eu un cas, plusieurs cas de harcèlement sexuel, et on a eu un cas très grave d'un ouvrier aussi qui emmerdait une fille de syndiquée de CFDT. Vraiment, c'était quotidien, il emmerdait tout le temps, un genre de truc, mais toute la journée, quoi. Et on a voulu faire un procès et se faire aider de... On est allé presque au procès avec elle, je le raconte dans mon livre, et c'est... on avait tout le monde contre nous, évidemment. La direction ne voulait pas en entendre parler dans les années 2000. La CGT ne voulait pas parce que le gars qui l'embêtait était syndiqué CGT. La CGC, qui était... ils avaient un délégué CGC qui était dans l'atelier, ils ne voulaient pas en parler. Donc on avait tout le monde contre nous. Au bout d'un moment, c'était tellement dur que la veille du procès, on s'était fait aider par la VFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail, qui est une association super, qui fait un travail génial, sans beaucoup de moyens. Mais on avait même fait un stage de formation avec elles. Elles étaient venues là-bas avec des délégués de la CFDT qui ont découvert cette question du harcèlement sexuel dans les entreprises. C'était super. Mais la copine, elle a pas été en procès. Mais elle a pas été, c'est elle qui a été déplacée dans un autre atelier. Le gars, il est resté en place. Il est devenu délégué de CGT. Écœurant. Après, bon, ça a été compliqué avec elle. Je l'ai revue plusieurs années après et elle a eu un cancer de l'estomac. Elle sait, ça lui est resté sur l'estomac, quoi, cette histoire. Les dégâts que ça fait. Maintenant, il y a un règlement intérieur dans les entreprises. Contre le harcèlement, les blagues, les photos porno, les calendriers, voilà, tout ça c'est interdit. Mais c'est beaucoup plus insidieux. Mais je pense que le harcèlement sexuel continue quand même.
On voulait, avant d'ouvrir la discussion, on voulait terminer en diffusant le témoignage d'une femme, justement, celui de Fatima Bigby. Donc c'est un extrait d'un film documentaire d'Annelise Maurice. Précisément, ce qu'on va diffuser, c'est un extrait brut, si je me trompe pas, d'une captation parallèle par Jean-Guy Martin. On reconnaît le témoignage enregistré dans les Algéco des syndicats.
C'était pour les 60, pour les 60 ans de Renaud Flin. On avait fait toute une animation, une animation importante dans le coin et bon, la direction de Renaud a pas voulu nous aider mais il y a eu un film qui a été fait, justement. Sur Flin, et ça c'est un des extraits.
C'est quelle année ?
Il y a 10 ans.
Mais c'est après, on va l'entendre, c'est après la fin de l'histoire de la Twingo. C'est après que la dernière Twingo soit sortie.
Toi, ton bac, tu l'as eu ici. Tu l'as passé au candidat libre, tu étais en chaîne.
Oui, Michel, oui.
Voilà, un exemple. C'est tout. On peut prendre
des arguments. En fait, oui, mais moi je préférerais plus parler en général et de ce qu'on faut. Ce qu'on pouvait, ce qu'on avait déjà évoqué. Et pour en revenir juste au savoir, ce qu'on disait, la seule chose qui, moi, je trouve un peu dommage, c'est que quand je travaillais en TCM en bout de chaîne, et je voyais des retoucheurs qui partaient en retraite. Il y en avait un qui était extrêmement doué, Tonio. Presque à vue d'œil, il arrivait à trouver la panne. Et il est parti en retraite et personne n'a pris. En fait, en partant en retraite, il est parti sans avoir formé qui que ce soit. Quand je le revois, moi je l'appelais tout le temps parce que c'était dès que j'avais un souci sur une voiture ou que je ne savais pas ce que c'était et ce qu'il fallait que je marque au carton, il venait. Il avait réussi. Et je le trouvais génial. Je trouvais que c'était quand même un génie là-dessus. Et c'est vraiment ça qui est dommage parce que c'était carrément jeter tout ça à la poubelle. Je vous assure que c'est quelque chose d'horrible parce que surtout moi je sais que j'aime vraiment tout savoir-faire et quand je vois ça je dis parfois même s'il te plaît Tony, tu peux montrer comment je change ça, comment on faisait ça pour que je puisse au moins essayer de le refaire sur mon véhicule en fait. Et je trouve que c'est vraiment pénalisant pour l'usine de laisser partir des gens qui ont des compétences et qu'ils ne les transmettent pas.
En même temps, ils vous ont formé, vous, du coup.
Bah, pas vraiment, parce que ce n'est pas mon métier, en fait. Moi, je ne pouvais pas. Mon travail, c'était juste contrôler le véhicule s'il y avait des défauts dessus, s'il y avait des rayures, s'il y avait des taches. Mais ils ne pouvaient pas me former. Ce qu'ils m'apprenaient, c'était juste pour mon épanouissement personnel. Hein. Ce n'est pas du tout pour pouvoir l'utiliser dans l'usine, parce que je n'avais pas les compétences pour. Et c'est dommage, parce qu'on voit ça dans tous les secteurs, à toute échelle, en fait. Il y a plein de personnes qui sont là, qui savent plein de choses, et ça prend pas grand... Je pense pas du tout que ça prenne énormément de temps que de former. Et j'aimais bien l'idée, quand j'ai lu la GPEC, j'aimais bien l'idée qu'on puisse transmettre, former des gens pour leur transmettre un savoir-faire.
Le tutorat, là.
Voilà, et ça n'a pas été mis en place. Et c'est des choses qui sont perdues.
C'est-à-dire le tutorat.
Parce que dans l'accord GPEC, il y a un pavé qui disait clairement que quand les personnes étaient prévues pour partir à 58 ans et plus, ils pouvaient mener un tutorat qui permettait de former des gens dans certains postes assez complexes ou même pas complexes. Voilà, tu pars en GPEC, mais pendant un moment, tu formes un peu tout le monde. Et au final, ce pavé-là, le tutorat, il n'existe pas. La personne, elle part en GPEC, on lui dit tu pars tel jour, et puis voilà, tu formes pas derrière, on prend un intérimaire, et puis il reprend le boulot, mais pas tout à fait comme l'ancien faisait, ça c'est clair. Et ça existe dans tout, je suis sûr que ça existe dans tous les départements.
Mais ça se faisait, moi quand j'ai été embauchée, je venais me faire embaucher, c'était des anciens qui m'apprenaient mon travail. Et c'était toutes les opérations que j'avais apprises sur la Tungo, c'était un ancien qui me formait à chaque fois. Et en plus, l'idéal, en plus, c'est ce qui est bien chez un ancien, quand il vous forme, il ne vous forme pas bêtement. Il vous explique exactement le bon et le mauvais comportement, le bon et le mauvais geste. Parce que tout ce qu'il pouvait nous soulager. Parce que, on apprenait des opérations, mais on n'était pas un système de robot, hein. On apprenait et nous formait avec, en disant, ben, comme souvent avec l'agent de bienfaisant, je plaisante, en général, il trouvait toujours des bonnes astuces, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Oui.
Et donc, ce premier poste de travail, Fatima, cette première formation, c'était quoi, précisément? Est-ce que c'était un travail, pas mal, féminin? Est-ce qu'il y a des travails féminins, masculins, là, alors?
Alors, moi, c'était carrément moi. Alors là, je suis tombée, il y avait intérêt à avoir des gros biscottos et aller comme un homme, parce qu'on n'avait pas... Moi, j'ai le souvenir d'avoir tenu des postes, des ceintures de sécurité, des plaques d'ancrage. Alors, les plaques d'ancrage, c'est au milieu du véhicule, pour pouvoir tenir les sièges et taper dessus comme un bonhomme, hein. C'est vraiment et on n'avait pas intérêt à se plaindre, parce que de toute façon déjà on était très peu de femmes embauchées, plus de jeunes filles embauchées, et il fallait qu'on tienne le coup, parce que ça se passait comme ça, en fait, notre période d'essai. Alors on avait pour faire des horreurs, on avait tout le temps, hein, parce que on ne nous lâchait pas. On avait, sur le premier mois, on avait 15 jours de période d'essai. Et le deuxième mois, en fait, on avait une période d'essai sur 2 mois, mais sur les 2 mois, c'était par tranche de 15 jours. Les premiers 15 jours, on était en période d'essai. Et les 2 derniers 15 jours, on pouvait souffler, on pouvait se permettre des erreurs. Et la deuxième partie, c'était le deuxième mois, on avait 15 jours de période d'essai. Et le dernier mois, ben, c'est là qu'on nous... Mais la période d'essai prenait fin au bout de 2 mois exactement. Parce que même la période où on pensait qu'on pouvait souffler, on était quand même... c'était un peu tangent. Et en fait, c'est comme ça qu'on réussissait à... C'est comme ça qu'on passait le cap. Et il fallait aussi savoir tenir 5 postes. La condition, c'était de savoir tenir 5 postes. La polyvalence, elle était primordiale. Elle était primordiale. Si on ne savait pas être polyvalent, on ne se faisait pas embaucher. Et moi, j'ai été embauchée avec le système des 4/5e. On avait 8 semaines de vacances et 15, 8 semaines. 8 semaines, non, c'était géré 8
semaines.
On voit bien, moi. On avait, ouais, on avait 8 semaines de travail et 15 jours de vacances. Et ça, c'était par contre, ça ne nous convenait pas. C'était une mauvaise gestion parce qu'on ne pouvait pas avoir un emploi en plus. On avait un salaire à mi-temps. Parce que mine de rien, c'était du mi-temps. Hein. Et pour des personnes qui avaient des enfants, pour des... c'était pas du tout possible parce que les 15 jours ne tombaient pas pendant la période des vacances. Et comme je disais, moi, c'était horrible parce que je travaillais 8 semaines, mais j'avais 15 jours pour dépenser mon salaire. Et tout, il restait... c'était horrible. Non, en fait, c'était trop long. Quoi. C'était pas une bonne chose. C'était juste ça, Loïc. Mais c'était la condition avec l'État à ce moment-là. C'était l'État qui avait... Il y avait l'histoire d'État avec la direction, subventionner Renault pour pouvoir embaucher, et c'était comme ça qu'on se faisait embaucher.
C'était en quelle année?
En 96. J'ai été embauchée le 21 octobre 96. Et sinon, et justement, j'avais été embauchée, mon premier emploi, c'était justement sur la Twingo. Et comme je vous l'avais dit, la Twingo, je savais monter une Twingo. Je pense savoir encore monter une Twingo entièrement. Quand je regarde une Twingo, surtout avec les toits au bronze, je dis obligatoirement celle-là, c'est moi qui l'ai faite. Parce qu'elle était sur une équipe. Après, vers la fin de la Twingo, en 2006 ou 2007, c'était la fin de la Twingo. Et je suis restée. J'ai fait tout. J'ai connu. C'est pour ça que je pense avoir un faible pour la Twingo. En fait, elle et moi, on a presque grandi ensemble. On a grandi, enfin, ou vieilli, bon, tout dépend. Mais je l'ai vue quand elle était en projet, et je l'ai vue finie, mais là, jusqu'à la dernière passée. Et c'est très sentimental, hein, mais j'aime vraiment la Twingo. Non. Mais ça m'a fait de la peine parce que j'ai vu beaucoup d'intérimaires avec qui on a travaillé. Le fait de la fin de la Twingo. Des chefs malheureux qui vraiment ils voyaient des personnes qu'ils allaient plus revoir parce que et ça a été et avec la fin de la Twingo bizarrement il y avait c'était assez bizarre je suis pas restée jusqu'au bout parce que ça m'a vraiment fait un pincement au cœur parce que on était là à prendre des photos tout ça mais on sachait pertinemment toutes les personnes qui étaient là devant faire des photos mais elles les faisaient d'une manière, c'était presque un enterrement, c'était pas quelque chose, c'était pas vécu comme une joie ou quelque chose comme ça. C'était vraiment comme un enterrement. Et on a tous, quand on en reparle avec des chefs ou une personne en particulier, quand on en parle, elle me disait qu'elle était vraiment. Cette personne-là même n'a pas fait la photo, parce que c'était quelque chose, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas se prendre en photo. En sachant qu'on enterre quelque chose, on enterre presque un symbole. Et parce que la Twingo, elle est symbolique. Enfin, pour moi déjà, et même c'est une voiture qui est quand même assez... avec une forme très très originale et là-dessus...
L'application a très très bien marché.
Elle a très très bien marché.
Bon, n'importe quoi.
Elles étaient toutes produites à fond.
Oui.
14 ans, pendant 14 ans. La Twingo, elle a passé 14 ans à plein.
Et c'est vrai que c'est...
C'est quand même très important. C'est vrai, hein, d'ailleurs, que je rejoins un petit peu Fatima par rapport à ça. Beaucoup de gens, pas mal de jeunes embauchés qui ont commencé avec la Twingo. Ce qu'on a traversé sur la Twingo, on est en train de traverser actuellement, parce que avant le départ de la fin de la Twingo à plein, ils avaient baissé justement la cadence de 50%, et après, elle est partie. On a perdu la Twingo. Mais il ne faut pas oublier, quand la Twingo est partie, ça a vidé l'usine. Parce que c'est une chaîne en moins. Vous voyez? C'est une chaîne en moins. Et quand ils l'ont enlevée, ça a fait un grand vide dans toute l'usine. Et ils l'ont enlevée, quand on est arrivé au retour des vacances, il n'y avait plus. Voilà, ça fait toujours un pincement, parce qu'on sait qu'on a perdu quelque chose de très fort pour nous. Dans laquelle on s'est investi beaucoup, énormément, parce que il fallait faire marcher l'usine. On était bon en qualité. C'est, en fin de compte, la Twingo nous a ramené à atteindre plusieurs objectifs sur le site de Flins. que ce soit sur la tune go, sur la qualité, que ce soit sur la production, que ce soit sur les coûts, que ce soit beaucoup beaucoup de choses. Et d'ailleurs, la fin de vie de la tune go, il y a eu beaucoup d'intérimaires, il y a pratiquement que ça. Et aujourd'hui, c'est le cas aussi. Vous voyez, avec la Clio par contre, qui va partir et qui va nous faire mal, parce qu'on va ressentir la même chose que ce qu'on a ressenti avec la tune go. Et voilà, les intérimaires ils vont être pénalisés en premier aussi, parce qu'il y a beaucoup d'intérimaires qui travaillent sur.
C'est un témoignage, j'ai coupé une première partie, mais où elle est très attachée, même assez fâchée du fait qu'il n'y ait pas de transmission. Elle commence par ça, dans le travail, avec les anciens, pas de reconnaissance, en fait, qu'il n'y ait pas de place au savoir-faire, quelque part. Bon, elle revient sur des questions horaires, évidemment, et puis, pour finir sur la Twingo et qui nous ici au Crédac nous concerne depuis un mois, mais elle parle aussi de l'avenir de Flins, puisque à Flins aujourd'hui il n'y a plus 22 000 ouvriers mais plutôt 2 000 voire moins
3 000 ils vont arriver à 2 000 oui.
Ils produisent encore la Zoé qui est la dernière Renault produite sur la chaîne, puis quelques pièces pour d'autres marques.
Oui, il est prévu la fin de la fabrication de voitures en 2024. Et donc l'usine serait une usine de recyclage. Et ça, ils disent qu'il y aura 4000 personnes, mais c'est pas vrai. Pour rassurer les gens sont très très inquiets, parce que là, les gens qui sont là, ils doivent trouver des postes ailleurs. Et déjà que c'est difficile, il n'y a plus de postes, même à Guyancourt, il n'y a pas de postes. Et quand on travaille en fabrication, c'est où est-ce qu'on va aller? Donc c'est assez inquiétant, il y a une ambiance assez délétère. Bon, revient toujours l'idée, mais bon, les voitures, ça fait longtemps que l'usine a perdu en effectif, en production, puisqu'il y a eu, les voitures sont fabriquées, la plupart des voitures sont fabriquées à l'étranger, ne sont pas fabriquées en France. Là, il y a eu l'externalisation, c'est comme ça que la couture a disparu, puis il y a eu une robotisation, l'externalisation, plein de choses qui ont fait qu'on est arrivé à 4000, et là, on était à 4003, et ils ont viré il y avait 1500 intérimaires, qui étaient tous en chaîne de fabrication, la majorité des intérimaires, qui sont la plupart du temps des enfants d'ouvriers, qui ont travaillé en chaîne, ou petits-enfants. Ils sont, petits-enfants de ceux qui sont arrivés dans les années 70. Et c'est vrai que, comment dire, ceux qui restent, il faut qu'ils trouvent des postes, quoi. C'est assez angoissant, parce qu'on va pas mettre tout le monde en recyclage, c'est pas possible. Là, ils font miroiter ça, mais... Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces bâtiments qui restent? Parce que c'est comme tu disais, il y a des beaux bâtiments qui ont été créés montés par un très grand architecte, mais la situation de l'usine, elle est bien pour faire des beaux projets immobiliers en bord de Seine. C'est vraiment en bord de Seine, c'est joli le bord de Renault. Mais il y a beaucoup de travaux. Alors, on a entendu parler qu'ils allaient louer ça, non, même vendre des bâtiments à des entreprises privées qui viendraient utiliser ces bâtiments qui ne sont pas abîmés, en fait.
Et j'imagine qu'il y aura des réactions, des questions.
Merci beaucoup. C'est très instructif et très, très émouvant aussi de vous entendre parler. J'avais une question par rapport à ce que vous avez dit au début sur le fait que vous n'êtes pas uniquement établi en usine, mais aussi établi dans la région, dans les villes qui étaient autour de l'usine. Est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire le fait de s'établir dans la région? Enfin, est-ce que ça avait une incidence? Est-ce que ça avait une incidence aussi par rapport au groupe Révolution auquel vous apparteniez? Et ce serait peut-être une manière de parler de la vie à la sortie de l'usine, voilà. Est-ce que vous avez envie de parler de ça et qu'est-ce que ça voulait dire de s'établir aussi dans cette région-là?
Nous, les quatre personnes qui se sont établies à l'atelier, on passait quand même beaucoup de temps à militer sur la question de l'usine, mais aussi on était dans des cités. On habitait dans des cités. Il y avait un copain qui était au Val-Fouré, donc à Mantes. Nous, on était plutôt sur au Bergenville pendant un temps, puis après au Mureau. Donc c'est vrai que on côtoyait la population. Après, longtemps après, quand on avait plus, mais c'est resté, on travaillait sur la question du logement. On travaillait beaucoup sur la question des femmes. On avait réussi à créer en 73, au moment de la bagarre pour la loi Veil, pour la loi, on avait créé un MLAC à l'usine, qui était avec la CFDT. La CFDT était quand même dans le MLAC, puisque Jeannette Lahaute était à l'initiative du MLAC, enfin, avait donné sa caution en tant que syndicaliste pour la défense du droit à l'avortement. Et nous, moi en tout cas, j'avais souvent des femmes qui me demandaient voilà, pour avorter, parce que c'était interdit. Et donc à Mantes, il y avait des médecins. À Mantes, au Mureau, il y avait le planning familial, il y avait des médecins qui faisaient des avortements sécurisés, mais interdits. Donc ça, c'était un premier. Et puis dans les années 80 aussi, on avait commencé à créer des groupes femmes locaux à Mantes et au Mureau. Et puis, on travaillait sur la question, sur plein de choses comme ça. Il y avait les foyers, il y avait des copains qui travaillaient parce qu'au départ, les travailleurs immigrés, il n'y avait pas eu le regroupement familial. Ils étaient dans des foyers. Donc, il y avait des batailles importantes dans les années 70 dans les foyers, sur les conditions de vie dans les foyers, etc., de travailleurs immigrés. Et il y avait des copains qui étaient dans des lycées, qui étaient professeurs, qui étaient profs, ou pions. Il y avait des copains médecins, il y avait tout un tas de professions, et c'était ça un peu aussi.
Vous aviez même ouvert une librairie à un moment.
Alors oui, ça a été dans les fin des années 70. L'idée a duré longtemps, une librairie indépendante qui s'appelait La Réserve. C'était le nom de la boutique à Mantes qui s'appelait, c'était une réserve de graines ou je sais pas quoi, ils ont gardé le nom, donc c'est resté La Réserve, une réserve indépendante où le dernier étage, le deuxième étage, c'était où il y avait du matériel de sérigraphie pour faire des affiches et des tracts. Et puis il y avait des débats, et puis elle a duré près de 40 ans, la réserve, et après c'est transformé, elle a été reprise, et maintenant elle est plus à Mantes, elle est à Limay, qui est une ville de l'autre côté de la Seine de Mantes, qui s'appelle la Nouvelle Réserve, qui est aussi une librairie indépendante, où il y a beaucoup de débats. C'est là que j'ai présenté mon livre en premier, quand il est sorti. Et puis maintenant, je suis syndiquée à Sud Solidaire, et on fait un accueil syndical hebdomadaire à la Nouvelle Réserve, dans un local. Donc c'est une librairie assez ouverte. On a fait un truc super... pour les 150 ans de la commune, une belle fête le 13 juin dernier. Bon, il y a des activités, je pense que c'est la vie dans les villes, la vie quotidienne est intimement liée au lieu de travail, c'est très important. Ouais. Avec Jama, on avait mené, c'était dans les années 82, une grande grève des loyers au Mureau. Il y avait eu une réhabilitation et c'était pas terrible la réhabilitation, donc on avait et on avait fait la grève des charges. Je ne sais plus combien de centaines, plusieurs centaines de personnes. On gérait avec la CNL, je crois, Confédération Nationale du Logement. Ça avait été super comme lutte. On avait, pendant presque 2 ans, on a bloqué les loyers. Et on a fait céder le promoteur pour qu'il améliore ce qui n'avait pas été bien fait, les malfaçons. Après, nous, on est partis. Donc nous, comme on était... On payait un surloyer parce qu'on avait un appartement plus grand qu'il fallait. Donc, on est parti, on a acheté une petite maison pas loin de l'usine. Voilà.
Toujours à Flins.
Et là, on est à Flins. Là, on est à Flins depuis 80, après la naissance de notre fils. Ouais, on voulait un grand jardin. Donc, on est dans le village de Flins, qui est de l'autre côté de l'autoroute, qui n'est pas, en fait... Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé cette usine Flins, parce qu'il n'y a rien à Flins sur l'usine, enfin, du village. Donc, voilà.
Moi, je vois tenais, ça. Ça sonne très bien, Flins.
Oui, merci vraiment infiniment à tous les deux. Fabienne nous a fait la gentillesse d'amener des archives aussi. Et puis, ce que tu nommes des perruques, la petite voiture et peut-être le couteau et cette petite trousse qui m'intrigue beaucoup.
Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la perruque. La perruque, c'est...
Ça fait durer encore un peu.
Ça n'existe plus beaucoup, et ça existe quand même dans certains métiers. En fait, c'est ce que l'ouvrier, l'ouvrière, le salarié utilise du temps récupéré sur le temps de travail et du matériel de l'usine pour faire des objets qui peuvent être utilitaires ou pas. Donc, les perruques les plus connues, ce sont les quilles. Vous savez, les quilles, une vraie quille de départ à la retraite. On offre des quilles. Bon. Et puis, les gens font plein de choses dans la perruque, dans le secteur de la verrerie. Ils font des choses magnifiques. Voilà. Et là, la première perruque que j'ai connue, c'est, on m'avait dit, des fois, les patrons disent, tu fais ça sur le temps de travail. On n'achète pas de trousse pour vos outils, vous, les mécaniciennes, les mécaniciennes en couture. Donc, tu vas faire ta trousse toi-même. Donc, on te donne du temps. sais pas combien il m'avait donné, une demi-heure ou une heure, on sait rien. Moi, j'étais nulle en couture. Ma mère était couturière, mais justement, je détestais la couture. Et donc, il fallait une trousse. Donc, on m'avait donné du simili, et puis une petite, des petites fermetures éclair pour mettre mes bobines de fil, mes ciseaux, des petites canettes, enfin, des petits outils pour la couture.
C'est quand même du travail, quand même.
Voilà, c'est du travail. Mais là, c'était... Voilà. Mais il y a des choses qui sont faites pour soi-même à la maison. On peut faire des poils, n'importe quoi. Il y a même des gens qui ont fait des bateaux, qui ont fait des trucs incroyables, hein, petites pierres, qui ont fait des trucs ahurissants. Alors, et Jama, quand il est parti à la retraite... Il y a un collègue qui lui a fait faire ça. Hein, ça. On lui a offert un truc qui est fait en pyrogue avec du cuir et un couteau. Ben, voilà, entièrement un beau couteau avec son prénom, Jama. On lui a donné ça.
Donc fait avec les matériaux et les outils.
Et le temps de travail. Voilà. Donc c'est un peu. Les patrons disent que c'est du vol, c'est interdit, hein, c'est illégal. Les patrons disent que c'est du vol, mais les ouvriers disent que c'est de la récupération. Voilà, c'est... Alors il y a de la pyrogue autorisée. À Renault, ils étaient un peu plus tolérants. Quand on avait fait au comité d'établissement, on a fait, quand j'étais animatrice, enfin après, j'ai été bibliothécaire, discothécaire et animatrice culturelle, on avait fait une très très belle exposition sur l'automobile, qui s'appelait Autodéco sur l'automobile dans l'art. Et donc on avait dit à la direction, faut qu'elle nous aide et tout ça, parce que ça coûtait un peu cher. Et on avait invité plein de gens, des gens qui nous avaient aidés pour monter cette exposition. Et la direction a autorisé un atelier à fabriquer. C'était une collaboration avec le comité d'établissement géré par la CFDT et la CGC et les établissements de Renault-Flin en juin 88, une centaine de petites voitures. Moi, j'ai toujours cru que c'était une Twingo, mais comme j'y connais rien en voiture, je travaille. Voilà. Et lui, il m'a dit que c'était une voiture de sport. Jamais il le savait, mais il m'a pas corrigé. Donc voilà, une belle voiture, toutes les mêmes, et qu'on offrait aux gens qu'on invitait pour cette exposition ou qui avaient travaillé pour cette exposition. Voilà. Donc là, c'est de la perruque qui est autorisée. Je vous recommande un super livre sur la perruque par un des spécialistes de la perruque en France. Il s'appelle Robert Kosman. Aux éditions Sileps, voilà, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, bleu, sortie d'usine, ça sort de l'usine. Et il a, avec beaucoup d'illustrations sur plein de sortes de perruques, donc je crois qu'il y a celle-là, et il y a ma trousse. Ouais, donc c'est, je vous recommande parce qu'il est très très chouette, voilà, et c'est en fait, c'est, le phénomène de la perruque est un peu clandestin, mais c'est quand même une espèce de revanche des ouvriers, de dire on est capable de créer autre chose que ce dont on nous paye, des choses artistiques ou rigolotes ou utiles. À la couture, il y avait des filles qui faisaient des peluches avec le tissu pas comme ça, mais il y avait des trucs qui étaient un peu plus matelas, comme de la, comment dire, du feutre. Elles faisaient des trucs magnifiques, c'était admirable, hein. Il y avait des gens vraiment très très doués. Voilà. C'était plus ou moins toléré. Alors évidemment, celle qui faisait la perruque, c'est celle qui était assez rapide et qui pouvait gagner du temps. Mais ça pouvait mettre plusieurs jours, quand même. Mais ça existe plus, je sais pas, ça doit encore exister dans les petites boîtes. Oui. Et ça existe à l'étranger. Alors, ça existe beaucoup à l'étranger, pareil.
Vous avez choisi Twingo. Quelle affinité vous avez
avec? Je pense que c'est la voiture de notre génération. Pour d'autres, ça aurait été la 4L.
Oui,
la 4L qui a été la plus longue production de Renault. Pour nous, c'était la Twingo qui était une voiture toute génération, toute classe, qu'on croisait partout dans la rue, dans nos villes. Et que moi, je m'intéresse à mon environnement immédiat et matériel. J'aime remonter jusqu'à la source de leur provenance et de leur production. Ouais. Je pense que beaucoup d'entre nous auraient des anecdotes ou des moments de vie à partager autour de cette voiture, même si on n'aime pas spécialement les voitures. Moi, j'en possède pas. Mais ça fait partie de nos vies pendant les dernières décennies. Ouais. Alors, encore merci, Fabienne.
Ouais.